La décarbonation dans l'industrie, beaucoup de personnes en parlent, mais peu ou pas de projets voient le jour. Nous sommes en 2025. Bonjour Dalia Ahmed.
Bonjour.
Vous êtes en charge des applications hydrogène au sein de Clark Energy et il y a des projets qui fonctionnent en vrai chez Clark Energy. Pouvez-vous justement me décrire votre société en quelques mots?
Alors, Clark Energy est une entreprise qui fait de l'EPC, donc c'est de l'ingénierie, installation, maintenance de centrales électriques et de gaz, un métier qu'on fait depuis plus de 35 ans dans différents pays, dans la France.
Comment peut-on décarboner l'industrie, quelle qu'elle soit, avec de l'hydrogène?
Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de décarboner l'industrie en utilisant l'hydrogène. Donc, la méthode la plus populaire, en tout cas
La plus
aujourd'hui
connue.
la plus médiatisée, ça va être d'utiliser de l'hydrogène bas carbone. Donc, au lieu de le produire de manière classique avec des hydrocarbures, on va le produire plutôt à travers les énergies renouvelables qui utilisent un électrolyseur. Donc, c'est un hydrogène très propre. Et cet hydrogène-là, il va être injecté dans des procédés industriels pour, par exemple, produire de l'acier vert. Une autre méthode qui est un peu moins connue, ça va être d'utiliser l'hydrogène sous-produit dans les procédés industriels pour pouvoir générer derrière de l'électricité et de la chaleur, et ce qu'on va appeler de la cogénération avec des moteurs à gaz.
Il y a aussi de l'hydrogène résiduel. Quel est-il?
Alors, c'est très intéressant comme source d'énergie. Aujourd'hui, certains procédés industriels génèrent des gaz, différents gaz avec un mélange d'hydrogène. Des fois, elles servent à chauffer les matériaux dans des fourneaux ou à réaliser des composés chimiques, mais qui ne sont pas forcément valorisés en dehors de ça, qui sont soit torchés, soit derrière non utilisés. Donc l'idée, c'est d'utiliser cet hydrogène sous-produit pour justement le transformer en d'autres éléments beaucoup plus intéressants et donc avoir une valeur énergétique plus importante.
Par exemple, bah le faire tourner dans des moteurs thermiques.
Voilà, des moteurs à combustion interne.
Justement, en parlant des moteurs à combustion interne, les modifications qu'il y a à faire sont lourdes.
Aujourd'hui, il faut savoir que on utilise déjà des moteurs à gaz à combustion interne depuis des dizaines d'années. C'est des cycles thermodynamiques qui sont plutôt connus, qui ressemblent un petit peu aux moteurs des
Thermiques.
véhicules, voilà, avec l'essence. Et pour pouvoir les passer à l'hydrogène, donc tout dépend du pourcentage d'hydrogène. Si c'est de 5 à 20% d'hydrogène, on va avoir besoin de modifications très mineures, qui ne coûtent pas cher, de l'ordre de quelques milliers d'euros. Si derrière on veut aller à des pourcentages plus élevés, par exemple 60%, là on va forcément faire des modifications d'équipement un peu plus importantes parce que le moteur était plutôt conçu pour le gaz naturel. Et au-delà, le 100%, donc ça va être des moteurs conçus spécialement pour cette quantité-là d'hydrogène.
En ce qui concerne les moteurs qui tournent à 100% hydrogène, si un jour je n'ai plus d'hydrogène qui arrive, est-ce qu'on peut le, on va dire, rétrograder en gaz naturel?
Effectivement, c'est ce à quoi ont pensé les fabricants de moteurs, c'est que on se prépare justement pour cette révolution de l'hydrogène. Mais si demain on a par exemple l'électrolyseur qui tombe en panne, qui nécessite une maintenance, pour ne pas arrêter l'installation, il est possible de revenir au gaz naturel ou d'utiliser même du biogaz ou d'autres sources de gaz qui ne sont pas forcément de l'hydrogène. Et cela aura peu d'impact sur la puissance électrique, on va dire, générée par le moteur. Mais attention, si on utilise du CH4, du gaz naturel, attention aussi aux émissions de CO2. Techniquement, on peut revenir vers les gaz fossiles, mais attention aussi à la pollution.
Qui peut plus, peut le moins,
Tout à fait.
mais on polluera un petit peu plus. Par
Oui.
contre, nous n'arrêterons pas l'installation.
Pas du tout. D'ailleurs, il y a un cas pratique très intéressant, c'est pour les data centers qui utilisent un moteur 100% hydrogène, autant que backup, c'est-à-dire système de secours. Il a été conçu pour du 100% hydrogène, mais en attendant, tant qu'on n'a pas le gaz, on va plutôt l'alimenter avec du gaz naturel. Et demain, il va pouvoir être switché sur l'hydrogène à nouveau.
En ce qui concerne les moteurs qui tournent 100% hydrogène, j'ai pu apprendre qu'on était quand même très haut en termes de température.
Oui, le résultat de la combustion, quand on a le gaz qui sort, le gaz d'échappement, il est très très chaud, donc il est aux alentours de 500 degrés.
C'est beaucoup.
C'est énorme. Donc on a besoin de le refroidir, de le purifier, voilà, avant de pouvoir l'évacuer vers l'extérieur.
Et dans ce cas-là, on peut faire de la cogénération.
C'est là où la cogénération devient pertinente. Donc l'électricité sera utilisée forcément pour l'usage qui lui a été confié. Et puis derrière, la chaleur, elle est souvent utilisée dans des réseaux d'eau chaude sanitaire ou résidentielle pour pouvoir alimenter un quartier ou autre, vu qu'on a vraiment une température très très élevée et aussi une puissance donc en kilowatts, qui va être intéressante aussi à valoriser.
On peut avoir un ordre de proportion justement de cette cogénération?
Alors, le rendement d'un moteur à combustion interne, il va être de l'ordre de 40%, c'est-à-dire que 60% ça va être de la chaleur, 40% ça va être de l'électricité.
Donc on récupère beaucoup de chaleur, plus de chaleur que d'électricité.
Exact.
Sur un projet concret, quel est l'ordre de difficulté à gérer?
S'il est à 100% hydrogène, pour moi, le facteur le plus important dans ce moteur-là, comparé à un moteur gaz naturel, qui est un peu plus standard, c'est le fait d'avoir beaucoup d'hydrogène concentré dans un seul endroit. Donc, il faut être très vigilant aux zones ATEX, donc atmosphère explosive. Il faut avoir des capteurs au-dessus de l'installation. S'il y a la moindre fuite, il faut avoir des stratégies de sécurité très, très pointues. C'est-à-dire, le moindre signe de baisse de pression de fuite, on coupe, on inerte, on ventile. On n'arrive jamais au point où on a une fuite qui, derrière, très rapidement, peut se transformer en jet enflammé. Il faut savoir que la flamme de l'hydrogène, elle est invisible. Et derrière, si on le laisse encore plus longtemps, il y a l'explosion. Donc, le spectre d'inflammabilité de l'hydrogène, il est beaucoup plus large, plus élevé et rapide
qu'avec
du gaz naturel.
Oui, parce que la molécule est très fine et très volatile.
Exact, tout à fait.
Dalia Siamed, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes en charge du projet hydrogène au sein de la société Clark Energy.
Merci. Au revoir.